Bon début d'après-midi à tous. Il est 13h sur les ondes de CIBL 105 Montréal. Ici Marc-André Carignan et bienvenue à cette nouvelle série d'émissions mensuelles sur nos ondes. C'est une série intitulée Pour un Québec apprenant, une émission qui est réalisée bien sûr par CIBL, mais en collaboration avec l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes. Et au cours des prochains mois, eh bien à raison d'une émission par mois, nous allons aborder différentes thématiques, des thématiques bien sûr liées à l'éducation aux adultes, un peu partout en province, de l'accès à l'éducation aux adultes en passant par son financement, l'apprentissage en ligne, c'est une technique qui est de plus en plus populaire. Et nous allons tenter, par ces diverses émissions, de démocratiser, de prendre le pouls sur le terrain aussi, avec des formateurs, avec des adultes, avec des apprenants aussi, voir un peu comment tout ça se passe en termes d'éducation aux adultes. Et aussi, nous allons bien sûr vous présenter différentes ressources disponibles, soit pour vous, si vous souhaitez tenter à plus ou moins long terme un retour à l'éducation aux adultes, ou peut-être pour quelqu'un de votre entourage. Et aujourd'hui, nous allons débuter avec la thématique de l'alphabétisation. L'alphabétisation, bien sûr, qui est à la base de l'éducation et qui permet à un adulte de pouvoir bien fonctionner à plein régime dans notre société. Et vous allez voir qu'au Québec, l'alphabétisation des adultes est loin d'être gagnée. Il y a de grandes lacunes un peu partout en province et on va en discuter dans quelques instants. Mais tout d'abord, comme c'est une émission qui est réalisée avec l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes, eh bien, je vous propose de découvrir cet institut. Et un peu plus tôt cette semaine, j'ai eu la chance de rencontrer Ronald Cameron. Il est directeur général de l'organisation. Bonjour, M. Cameron.
Bonjour, Marc-André.
Alors, tout d'abord, qu'est-ce que l'ICEA?
L'ICEA, c'est un organisme qui existe déjà depuis plus de 65 ans et qui est lié avec l'histoire du Québec, l'accès à l'éducation aux adultes. Et c'est fondamentalement un organisme maintenant qui est un organisme carrefour, c'est-à-dire qui regroupe ses membres, sont surtout des membres des organismes qui regroupent du monde de l'éducation, donc les commissions scolaires, les cégeps, des universités, mais aussi du monde du travail. On retrouve les grandes organisations syndicales, les organisations syndicales enseignantes aussi, et ou d'autres dans le monde de l'éducation aussi, du travail et de l'éducation. Et enfin, tout un secteur qu'on appelle l'éducation non formelle ou informelle, qui est l'éducation populaire. Donc, on a beaucoup d'organismes communautaires qui sont membres. Donc, c'est le mariage de trois mondes et nous, on agit comme réseau, en quelque sorte, de concertation au bénéfice de l'éducation aux adultes, de la formation continue.
Mais vous n'êtes pas directement relié au ministère de l'Éducation. Là. C'est vraiment indépendant, mais vous êtes les représentants.
On peut dire qu'on est l'organisme carrefour de la société civile et indépendant de l'État et qui fait en sorte qu'on peut exprimer une voix auprès des pouvoirs publics pour influencer les politiques et de faire en sorte aussi que la question de l'éducation aux adultes soit au cœur des préoccupations de tous ces réseaux-là qui, parfois, de façon sectorielle, peuvent avoir des orientations qui sont pas toujours articulées entre eux.
Parlons-en justement de l'éducation aux adultes. Ce serait peut-être intéressant de définir ce qu'on entend par éducation aux adultes. Donc, ce sont des gens qui n'ont pas nécessairement terminé leurs études, qui retournent sur les bancs d'école?
Non, fondamentalement, la mission de l'ICEA se situe sur l'éducation, l'apprentissage tout au long de la vie. Donc, c'est une question où il y a une population qui est éloignée de l'écrit, qui a des problèmes peut-être d'alphabétisme, là, comme on dit, et donc de formation de base. C'est un secteur de l'éducation aux adultes. Mais l'éducation aux adultes, c'est aussi la formation en emploi, la formation continue, les apprentissages qui se font dans les milieux de travail. Et c'est aussi l'éducation aux adultes de ceux qui vont faire des retours à l'école. Donc, c'est tous ceux qui, après la scolarisation de base, font une interruption. Donc, ça part, on peut dire, de 16-18 ans jusqu'à 77 ans, si on veut dire. Parce que ça comprend aussi le monde du troisième âge, on peut dire, parce que la complexification de la société, les problèmes liés avec les réseaux de santé, la capacité de pouvoir s'approprier les informations qui viennent des institutions, ça aussi, c'est un enjeu en éducation aux adultes.
Et vous êtes partout au Québec?
C'est-à-dire que c'est un organisme, on n'a pas, c'est pas un organisme avec des points de chute partout. C'est-à-dire que les réseaux qui sont membres sont partout, ça c'est certain. Donc, parmi nos membres, c'est sur tout le territoire du Québec qu'on retrouve des membres de l'ICA.
Et vous êtes aussi actif sur la scène internationale, c'est intéressant. Donc, vous œuvrez au Québec, mais vous avez aussi une mission à l'international.
C'est que le mouvement pour l'accessibilité, le droit à l'éducation, c'est un mouvement international. Donc, il existe un Conseil international pour l'éducation aux adultes auquel on est affilié. On participe depuis le début. On a été parmi ceux qui ont été les plus importants à mettre en place ce conseil-là. Et la dernière Assemblée mondiale qui a eu lieu en 2011 a décidé que le prochain rendez-vous serait à Montréal. Donc, on est en mode préparation. Là, c'est autour de 2014-2015, probablement, que ça va se tenir. Mais on est en mode préparation et ça va être un rendez-vous d'un millier de personnes qui vont venir partout dans le monde et qui œuvrent en éducation aux adultes au bénéfice de l'accessibilité.
J'aimerais revenir sur votre historique. Vous le disiez en ouverture. Bon, ça fait 60 ans que l'Institut existe. Vous avez passé à travers différents contextes sociaux des années 60, 70, l'émancipation de la femme, l'émancipation, en fait, la valorisation du système scolaire en général au cours des dernières décennies. Et vous avez finalement réussi au tournant des années 2000 à obtenir un engagement concret, une politique gouvernementale d'éducation aux adultes. Pouvez-vous nous résumer, parce que je sais que c'est complexe, mais pouvez-vous nous résumer un peu cet engagement, cette politique gouvernementale?
Oui. Alors, cette politique a pour but, justement, de favoriser l'accessibilité. C'est une politique qui a été mise en place en 2002. Donc, on a, en quelque sorte, en 2012, cette année, c'est le 10e anniversaire. Et effectivement, c'est le résultat d'un mouvement qui est à la fois au Québec, la concertation des acteurs, comme on en a parlé, mais aussi qui est un mouvement à échelle internationale. Au tournant des années 2000, à travers l'UNESCO, à travers le Conseil international d'éducation aux adultes, il y avait ce momentum-là pour mettre de l'avant toute l'importance de développer des moyens pour accroître l'accessibilité et lever les obstacles pour les adultes à des accès à la formation. C'est un peu le sens de la politique. Ceci dit, cette politique-là qui a été mise en place en 2002 avait un certain nombre de prescriptions pour permettre son renouvellement et ça ne s'est pas produit. Donc, au bout de 10 ans, on a une politique qui a vieilli, qui a un certain nombre d'avantages, mais qui est en retard sur la situation, sur les éléments nouveaux de la société au Québec. Et on croit absolument important de définir, au bénéfice de l'ensemble des réseaux et des adultes en formation, des propositions pour la prochaine décennie.
Oui, parce que là, êtes-vous en négociation pour renouveler en quelque sorte cette politique gouvernementale ou du moins la faire évoluer pour les 10 prochaines années? Là?
Oui, en fin de compte, c'est ce qu'on demande, nous, depuis plusieurs années. Il n'y a pas de négociation formelle. Là. La conjoncture politique qu'on connaît aujourd'hui va être une donne dans l'appréciation des choses. Mais c'est clair que cette politique-là a besoin d'être adaptée. Alors, on a pensé pour la prochaine année de mettre en place un rendez-vous qui est sur le thème de faire plus pour l'éducation aux adultes, faire plus pour un Québec apprenant. C'est-à-dire de faire en sorte de mettre en marche l'ensemble des réseaux pour accentuer, accroître et renforcer l'accessibilité et le droit à l'éducation des adultes.
Et c'est un rendez-vous qui se tiendra donc en mai prochain. Alors, ça s'en vient dans à peine quelques mois. Et concrètement, sur le terrain, on va y retrouver quoi?
Ah, on a, dans ce rendez-vous-là, qui est encore en préparation, on veut faire appel à nos membres et aux organismes qui œuvrent en éducation aux adultes, donc dans tous les réseaux, autant l'éducation formelle, institutionnelle, que non formelle, populaire, dans les milieux de travail, pour manifester les pratiques qui portent le plus à conséquence et qui sont les plus aidantes pour l'accès des adultes à la formation. Donc, on a, et je veux le mentionner, la série d'émissions qui s'amorce avec aujourd'hui à CIBL fait partie de ce déploiement-là d'un processus, d'une mobilisation. Donc, tout au long de la prochaine année, on va revenir sur les pratiques qui ont eu cours depuis 10 ans, à la faveur de la politique, mais pas nécessairement. Mais les pratiques qui sont les plus aidantes. Alors, on va en témoigner, on va chercher à les faire connaître, on va les diffuser entre les réseaux, parce que souvent, les bons coups qu'un groupe populaire peut faire, ben ça reste dans le secteur des groupes populaires, et je pense que ça peut être au bénéfice des autres réseaux.
Alors, c'est ce qu'on va tenter avec cette série d'émissions, là, de démocratiser, de rendre accessible justement les différentes ressources pour l'éducation aux
Exactement.
Adultes. Et pour ce qui est de votre grand happening du mois de mai prochain pour un Québec apprenant, on y reviendra bien sûr au cours des prochains mois. Eh bien, Ronald Cameron, directeur général de l'ICA, merci beaucoup.
Merci, Marc-André.
Je ne vois pas le jour où l'on ne se verra plus. Tenir la nuit debout à se toucher. Vivre la folie avec toi. Se lever au coucher de soleil. Voir des jets bleus à deux. Écoute comme il fait beau. Petit bruit, et quand tu réapparais, l'on se sourit. Si j'ai l'air un peu étourdi, c'est à cause de toi. Tant de départs annulés, la vie s'est emparée de moi et m'a donné toutes les envolées. Je ne vois pas le jour où l'on ne se verra plus. Avec toi, je suis debout, même quand je suis couché.
C'était Yann Perrault avec la pièce « Vertigo de toi ».
Jusqu'à 14h sur les ondes de CIBL, vous écoutez « Pour un Québec apprenant » avec Marc-André Carignan.
13h14 et débutons avec notre thématique du jour, l'alphabétisation. Et vous savez, lire un journal le matin, c'est peut-être naturel pour vous, c'est peut-être même banal, ça fait partie de votre routine matinale. Lire un compte d'Hydro-Québec aussi, ou lire les ingrédients d'une recette, mais pour une bonne partie de la population québécoise, c'est tout un défi de comprendre ce qu'ils ont sous les yeux. Et chaque jour, ces personnes font des efforts considérables pour bien fonctionner dans notre société. Et statistiquement parlant, quelle proportion d'adultes québécois sont touchés par des problèmes de lecture, que ce soit des problèmes mineurs ou majeurs? Eh bien, on va en discuter à l'instant avec Bertrand Perron. Il est directeur des enquêtes longitudinales et sociales à l'Institut de la statistique du Québec. Bonjour à vous, Monsieur Perron.
Bonjour.
Alors, votre institut s'est intéressé ces dernières années à la thématique de l'alphabétisation et vous avez réalisé différentes enquêtes. La dernière date de 2003. Quels étaient exactement les objectifs de cette enquête?
En fait, ce qu'on voulait, c'est mesurer le niveau de compétence de base des adultes québécois et canadiens. C'est une enquête qui s'est faite avec Statistique Canada, là, dans quatre domaines. Donc, la compréhension de textes suivis, la compréhension de textes schématiques, la numératie, donc faire des calculs, et la résolution de problèmes. Donc, c'est des domaines de la littératie qui avaient déjà été mesurés dans une enquête en 1994. Donc, on voulait aussi comparer les résultats, voir s'il y avait eu une progression.
Et là, vous avez tenté d'obtenir les compétences de base, les capacités de lecture des Québécois.
En fait, c'est ça. C'est le concept de littératie, ça peut être défini comme l'aptitude à comprendre l'information écrite, mais aussi à la traiter, à l'utiliser dans le cadre de la vie quotidienne. Donc, à la maison, au travail, dans les quatre domaines que je vous ai, que je vous ai nommés.
Avez-vous des exemples, justement, de tests là, pour nos auditeurs, qu'on comprenne bien là, ce que vous avez évalué?
Oui, ben nous, les répondants qui ont participé à cette enquête-là, on leur soumettait des tâches où ils devaient lire, par exemple, la posologie d'un médicament, et donc lire l'information et puis traiter cette information-là et répondre à des questions à propos du texte qui leur était présenté. Ça, c'est pour texte suivi, par exemple. Pour texte schématique, c'est des tableaux, des graphiques accompagnés de textes. Là, encore une fois, on demande de traiter l'information. Ça peut être plus ou moins complexe. Il y avait différents degrés de difficulté associés à chaque tâche.
Je crois que j'ai vu, par exemple, aussi évaluer l'essence qui restait dans une voiture en fonction de la petite aiguille dans la voiture.
Oui, c'est ça. Donc, ça, c'était plus la numératie, là, d'être capable de calculer le nombre de litres qui reste dans notre réservoir à partir de la jauge, sachant combien de litres au maximum on est capable de mettre dans notre voiture.
Des fractions, des pourcentages.
C'est ça, calculer des proportions, faire des additions, des soustractions, des divisions, mais pas de calcul algébrique complexe.
Avec des variables, des équations.
Non, pas de maths 203 au cégep, des choses comme ça, mais vraiment associé à la vie quotidienne.
À la vie quotidienne. Et là, on s'en sort comment?
Ben, ce qu'on constate, c'est qu'à peu près la moitié des adultes québécois atteignent pas ce qu'on appelle le niveau souhaitable de littératie pour bien fonctionner dans la société du savoir.
Là. C'est-à-dire?
Donc, peut-être faudrait que je vous explique un petit peu comment qu'on a mesuré la littératie. En fait, à partir de ces tâches-là, on a été capable d'établir une échelle qui varie de 0 à 500 points. Puis là, on est capable de aussi trouver des points de coupure. Donc, dans le fond, on découpe ce continuum-là pour créer des niveaux de compétences. Donc, disons, le niveau 1, on le qualifie de faible compétence. Le niveau 2, le niveau 1 de très faible compétence. Niveau 2, faible compétence. Niveau 3, c'est le niveau souhaité pour bien fonctionner. Donc
le minimum, là, le seuil minimum.
C'est le seuil, je dirais pas minimum, mais c'est le seuil souhaitable. Dans une société de plus en plus complexe qui est caractérisée par le changement, donc c'est souhaitable d'avoir un niveau de littératie là, qui est quand même assez intéressant. Puis, on avait les niveaux supérieurs, là, 4 et 5. Donc, quand je vous dis à peu près la moitié de la population adulte québécoise atteint ou n'atteint pas, là, vu qu'on est à moitié, on peut le voir dans un sens comme dans l'autre, le niveau souhaitable en compréhension de texte suivi, en compréhension de texte schématique, puis en numératie, là, on tourne autour de 50 %.
Mais là, il y a un adulte sur deux qui n'atteint pas le seuil minimum ou le seuil souhaitable dans votre échelle.
C'est ça.
Donc, ces adultes-là ne peuvent pas fonctionner de façon régulière ou à plein régime dans notre société.
Je dirais de façon
il y a des difficultés quotidiennes.
C'est ça, de façon optimale. Ils sont capables de fonctionner dans la société. Il faut comprendre aussi que le design de l'enquête, c'est un design qui est quand même artificiel par rapport au fonctionnement réel dans la société. Les répondants étaient devant des stimuli écrits. Ils ne pouvaient pas se faire aider par personne. Ils ne pouvaient pas poser de questions. Dans la vie quotidienne, on peut toujours se faire aider par quelqu'un. Il y a aussi toute l'information verbale. Mais le web, c'est de l'information écrite aussi.
Ah, donc, ça devient plus compliqué.
Dans ce sens-là, les technologies de l'information sont interpellées aussi par le concept de littératie. Donc, je dirais qu'il leur manque certaines compétences pour être capable de faire face aux changements, aux défis de la société du savoir.
Mais là, est-ce qu'on doit s'inquiéter d'une certaine façon? Si on compare, par exemple, aux autres provinces canadiennes, est-ce qu'on s'en sort bien ici au Québec?
Généralement, le Québec se situe en dessous des autres provinces canadiennes ou comparativement au Canada dans son ensemble. On est sous les seuils canadiens. Mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a un certain rattrapage qui s'effectue là, depuis 1994. De 1994 à 2003, on a vu un rattrapage. Puis c'est seulement au Québec où on pouvait voir ce rattrapage-là. Dans les autres provinces, on pouvait pas constater une augmentation des niveaux de littératie dans les domaines que je vous ai montrés. Donc, on peut penser qu'avec le temps, là, on va pouvoir rejoindre, en tout cas, idéalement, ce serait ça, les niveaux de littératie qui existent dans les autres provinces.
Mais comment on explique que le Québec soit en retard, si je peux le dire ainsi?
Bien, dans les analyses qu'on a faites, par exemple, on remarque qu'il y a un effet de génération, c'est-à-dire que la scolarité des parents des répondants, joue beaucoup. Donc, dans le Canada, dans les autres provinces, la scolarité supérieure est encouragé depuis plus longtemps. Les anglophones sont allés à l'école depuis un certain temps, depuis assez longtemps. Ils vont à l'école de façon plus intensive que les francophones du Québec.
Peut-être une plus grande valorisation de l'éducation.
De l'éducation, c'est ça. Des meilleurs. Ils étaient peut-être mieux organisés aussi au niveau de l'éducation. Ce qu'on remarque, c'est que chez les jeunes Québécois, le niveau de compétence est égal aux jeunes dans les autres provinces.
Donc, comme vous le disiez, on est en mode rattrapage.
Est en mode rattrapage, effectivement.
Si on regarde les statistiques internationales, il y a on voit que les femmes sont plus touchées par les problèmes de littératie. Est-ce que c'est la même chose ici au Québec où il y a un ratio homme-femme?
Il n'y a pas beaucoup de différence au niveau des compétences entre les hommes et les femmes. On en a vu un faible avantage pour les hommes en numératie, là, si ma mémoire est bonne, mais grosso modo, il n'y a pas vraiment de différence. C'est plus en emploi que ça se concrétise. En fait, pour qu'une femme puisse accéder à un emploi avec des conditions intéressantes au plan salarial, elle doit faire preuve d'une plus grande compétence en littératie, là, c'est ce que nos résultats démontrent, que les hommes. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'à la base, ils sont moins bien équipés en compétences en littératie, mais il faut qu'ils fassent preuve davantage de leurs compétences que les hommes pour avoir des emplois valorisants, disons.
Et est-ce que la littératie, c'est un peu comme la bicyclette, selon les tests que vous avez réalisés, est-ce que ça se perd à travers le temps si on ne pratique pas nécessairement tous les jours? Est-ce que vous avez été en mesure de voir ça?
On n'a pas pu mesurer ça directement, mais il y a certains indices qui nous laissent croire qu'on peut perdre nos compétences avec l'âge, surtout si on ne pratique pas ces compétences-là dans le cadre de notre travail. Donc, c'est important là, de maintenir la pratique de la littératie, donc de lire. Ceux qui ont des emplois où la pratique de littératie est plutôt faible, on fait l'hypothèse qu'ils ont peut-être tendance à perdre leurs compétences en littératie. Puis ce qu'on voit aussi chez les étudiants, par exemple, les jeunes étudiants, ils ont des très bons scores de littératie parce qu'ils la pratiquent au quotidien, dans le fond, dans le cadre de leur formation.
Mais ça pourrait se perdre éventuellement si on le...
Oui, s'ils sont surqualifiés, par exemple, en compétences pour un emploi, puis qu'ils n'utilisent pas ces compétences-là dans le cadre de leur emploi, ils vont peut-être les perdre. Ou s'ils ne se motivent pas eux-mêmes à faire de la pratique en littératie dans le cadre de leurs activités de loisirs, par exemple, ou s'ils arrêtent de lire. Il y en a qui lisent pour leurs cours, qui étudient pour leurs cours, mais après ça, ils ont peut-être moins envie de le faire. Donc, à quelque part, ça pourrait entraîner une perte de compétences.
Et là, il y a une autre enquête qui est actuellement en cours parce qu'on le disait en ouverture d'entrevue, celle que vous aviez, les résultats dont on parle en ce moment datent de 2003. Vous en avez une nouvelle en cours qui sera prête, j'imagine, d'ici quoi, quelques mois?
On devrait avoir des résultats de cette enquête-là en 2013. Là, je ne pourrais pas vous dire exactement quand. C'est Statistique Canada qui mène l'enquête. Là, l'Institut de la statistique du Québec est moins impliqué cette fois-ci. Mais oui, on va avoir des résultats qu'on va pouvoir comparer avec l'enquête de 1994 et l'enquête de 2003.
Ouais, c'est une certaine évolution, une amélioration du bilan, là.
Oui, puis ça va tenir compte aussi des compétences par rapport à l'utilisation des technologies de l'information, ce qui n'était pas mesuré directement dans les enquêtes antérieures. Donc, l'utilisation d'Internet,
téléphone intelligent,
ces choses-là.
Réseaux sociaux.
Effectivement, ça va être mesuré. Je pourrais pas vous dire exactement de quelle façon, là, j'ai pas vu des instruments, mais ça va être un nouveau domaine.
C'est un peu moins populaire au tournant des années 2000. Là, ça commençait là, à se répartir dans les différentes générations, là, toutes ces nouvelles technologies.
Effectivement, oui.
Eh bien, Bertrand Perron, directeur des enquêtes longitudinales et sociales à l'Institut de la statistique du Québec, merci beaucoup.
Bien, ça m'a fait bien plaisir. Bonne chance pour le reste de l'émission.
Merci beaucoup.
Merci.